bana kebina fere to chambe bante de wanna be jibe abinante ti tu jafinter e mini jazike wa ya wa ya yo
ya ya
se 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 su lambambona
ya ya mbona dile ya 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 yo.
Et tout de suite, des infos. Des infos.
Tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue dans cette édition lutte contre l'insécurité. Plusieurs dizaines de terroristes ont été tués dans les opérations de l'armée la semaine du 10 au 16 janvier dernier. Au Soudan, au moins 7 personnes sont mortes hier lors des manifestations contre le coup d'état militaire. Et puis CAN 2021, après leur qualification hier, les étalons connaîtront leur adversaire à l'issue des oppositions de ce mardi. Et puis vous l'aurez constaté, avec le temps qu'il fait, rhume, angine, otite, grippe, sinusite et tout, gagne plusieurs personnes. On en parle avec notre invité du jour. Il s'agit du docteur Omar Zamtako, spécialiste ORL, chirurgien tête et cou. L'armée affirme avoir neutralisé plusieurs dizaines de terroristes dans la région de l'Est et dans la région du Sahel. C'est ce qui ressort du point hebdomadaire des opérations menées du 10 au 16 janvier dernier. Mariam Soma.
Dans ces opérations de sécurisation de l'armée au groupement de forces du secteur nord, le 11 janvier 2022, une unité d'intervention du détachement militaire de Markoya, province de Loudalan, a été la cible d'une attaque complexe alors qu'elle effectuait une mission offensive en direction de Toka Bangou, province de Loudalan, dans la région du Sahel. Malgré la riposte qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes, 5 militaires ont été mortellement atteints. Une contre-offensive aérienne a été immédiatement déclenchée et a permis d'intercepter et de neutraliser une vingtaine de terroristes du groupe qui avaient attaqué l'unité et qui tentaient de s'infiltrer vers la frontière du Niger. Leur armement et leurs moyens roulants ont été également détruits au cours de cette riposte. Le 13 janvier 2022, une unité d'intervention du groupe est intervenue pour effectuer des opérations de sécurisation suite à l'attaque contre un poste de contrôle de la police nationale qui a eu lieu sur l'axe Gorom-Tasmakat, province de Loudalan. Et le 16 janvier 2022, la brigade territoriale de gendarmerie de Sapielga, province du Sénou, région du Sahel, a été la cible d'une attaque qui a coûté la vie à un gendarme et causé des blessures à un autre. En dehors de ces opérations, d'autres actions ont été effectuées par nos forces armées nationales. Il s'agit de plusieurs opérations aériennes terrestres de ravitaillement en vivres et conduites au profit des populations de la localité du centre-nord, de l'est, du sud-ouest. Ces opérations ont été effectuées en coordination avec le ministère en charge de l'action humanitaire. Il faut noter également que l'armée aussi a sécurisé les marchés et les lieux de culte, les travaux de bitumage de l'axe d'Ori-Gorom et ainsi procédé à des escortes au profit des structures étatiques et privées dans les différents groupements de forces.
Merci à Mariam Soma. Le rapport de la commission ad hoc portant approbation des demandes de projets immobiliers a été rendu public hier. C'était lors d'un point de presse animé par le ministère du Développement urbain, de l'habitat et de la ville. Il en ressort que 105 dossiers de projets immobiliers ont été retenus sur les 400 soumis au ministère. Moumouni Yaro pour le compte rendu.
Il y avait au départ 106, mais 400 dossiers ont été analysés pour une occupation de 30 000 hectares. Au finish, 105 dossiers pour 7 000 hectares sont retenus pour la suite de la procédure. Une priorité a été donnée à la planification urbaine. Aimé Soubeiga, directeur général de l'architecture, de l'habitat et de la construction.
Le comité ad hoc a d'abord procédé à une cartographie pour présenter tous les projets, tous les croquis, les terres qui ont été mobilisées par les promoteurs immobiliers des différentes localités concernées. Et dans la suite, il a été question de confronter ces différents sites-là par rapport aux documents de planification urbaine pour voir si leurs emplacements sont autorisés ou pas par les documents de planification urbaine quand cela existe sur certaines localités. Heureusement d'ailleurs, la plupart des localités sont dotées de ces documents.
S'ensuit une analyse de conformité. Aimé Soubeika.
Un promoteur qui mobilise des terres dans les terrains déjà organisés dans un parcellaire régulier, on considère que du moment où c'est déjà dans le parcellaire, c'est conforme aux documents si c'est en zone d'habitat. Il y a des zones qui sont notées zones à restructurer. C'est les zones non loties, etc. Et à l'intérieur des zones déjà habitées. Nous avons des zones déjà prévues pour la promotion immobilière.
Les 7000 hectares sont répartis entre 7 régions du pays, dont 6420 pour les seules régions du centre et des hauts bassins. Les personnes ayant déjà acquis des parcelles ou logements sur des sites illégaux auront la garantie de l'État, a laissé entendre Maître Benewende Sankara, ministre du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville.
Hors de nos frontières, au Soudan, au moins 7 personnes sont mortes hier lors des manifestations contre le coup d'État militaire. Pour la 14e fois depuis la prise du pouvoir par les militaires en octobre dernier, des milliers de manifestants ont bravé l'important déploiement sécuritaire pour descendre dans les rues de Khartoum et tenter de s'approcher du palais présidentiel pour dire non aux militaires et exiger un retour à un gouvernement en civil. La Corne de l'Afrique risque de traverser l'une des pires crises alimentaires au monde, avertit l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Après le Covid-19 et 2 années consécutives d'invasion de criquets, les populations rurales sont confrontées à une troisième saison de sécheresse, nous rapporte RFI, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie en particulier. Plus de 25 millions de personnes risquent de se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire très aiguë d'ici à la mi-2022.
La revue de presse.
La qualification des étalons pour les 8e de finale de la CAN et le probable report des élections municipales sont des sujets commentés par les quotidiens de ce mardi. S'agissant de la CAN, tous sont unanimes. Les étalons, même s'ils ont fait l'essentiel, leur ont donné des sueurs froides. Quant aux municipales, nos confrères pensent qu'un report serait un grand pas en arrière. La revue de presse de ce jour est présentée par Brigitte Yoda.
Que ce fut laborieux, s'exclame le pays à sa une après la qualification hier des étalons. Une qualification dont la douleur mentionne le quotidien. Les étalons en 8e au petit trot poursuit l'Obs, qui pousse un ouf de soulagement. De justesse écrit Sidoya au forceps, titre aujourd'hui au Faso. Même si l'essentiel est fait, les étalons se sont qualifiés sans convaincre, regrette l'Express du Faso. Les étalons, deuxième du groupe A, joueront dimanche prochain avec le deuxième du groupe C. Ils doivent se montrer plus inspirés et entreprenants s'ils veulent aller loin dans cette compétition, termine Sidoya. Après la CAN, on s'intéresse aux élections. Si la classe politique burkinabé n'est pas favorable à la tenue des municipales en mai 2022 pour des raisons d'ordre organisationnel et sécuritaire, Sidoya pense qu'il faut le faire car le Burkina doit rester debout malgré l'adversité. Un nouveau report serait un nouvel échec face aux terroristes, affirme l'Express du Faso. Qu'est-ce qui prouve que nous serons en mesure d'organiser des élections très prochainement, questionne notre confrère. Il ajoute en outre, remplacer les présents conseils municipaux par des délégations spéciales est aussi un grand recul démocratique et en même temps un frein au développement local. Allant dans le même sens, Sidoya pense qu'il faudrait trouver les moyens d'organiser les élections municipales. Ce serait aussi une forme de résilience, dit-il. Et puis le gouvernement doit revoir sa copie, s'exclame le quotidien à propos de cette suspension récurrente de la connexion Internet mobile. Dans presque tous les pays, cela peut arriver. Mais lorsqu'elle devient une habitude, on ne peut que se poser des questions, indique notre confrère. Nous sommes au Burkina Faso, un pays toujours prêt à signer et à ratifier tous les textes internationaux, mais qui s'avère être l'un des derniers quand il s'agit de l'application rigoureuse de ces mêmes textes. Il est donc temps que les autorités apprennent à respecter les citoyens si elles veulent en retour le respect dû à leur rang. Conclut le quotidien qui milite en faveur du droit des citoyens à l'information, un droit fondamental en démocratie.
Omega Sport.
Je vous le disais, les Étalons se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale de la CAN malgré son match nul concédé contre l'Éthiopie 1-1 à Bafoussam. Les Étalons ont terminé la deuxième place du groupe A derrière le Cameroun, auteur d'un nul 1-1 contre le Cap-Vert. Le résumé de la rencontre Burkina Faso-Éthiopie avec Ibrahim Bayeli, l'un de nos envoyés spéciaux.
Les Étalons n'ont pas été éblouissants ce lundi après-midi à Bafoussam à l'occasion du dernier match du groupe A. Un match presque à sens unique et à oublier très vite. Les Étalons sont passés à côté de leur sujet, laissant le jeu à l'Éthiopie, son adversaire du jour. Les Antilopes, venus d'Éthiopie, se créent la première occasion nette de but, mais aussi le premier corner de la partie. Avec une défense aux relances approximatives, un milieu inexistant, des passes imprécises et une attaque à mort, tous les ingrédients étaient réunis pour que le Burkina ne fasse pas un bon match. Les Étalons sont méconnaissables. Les Éthiopiens sont dominateurs. La première occasion nette de but côté burkinabé intervient à la 10e minute de jeu. Mais Hassan Bouremabandé voit son tir frôler le côté gauche du portier éthiopien. Les Étalons continuent de subir le jeu et c'est sur l'un des rares contre-attaques que Cyril Bayala, sur un service de Adama Guira, réussit le lob parfait. Un but à zéro. Les Étalons peuvent alors dérouler leur jeu qui devient plus agréable à voir avec des séquences de jeu assez intéressantes. Derrière, Farid Ouedraogo, le portier burkinabé, assure et se met en confiance. La pause intervient sur cette petite avance du Burkina. À la reprise, il n'a pas fallu plus de 2 minutes pour voir l'Éthiopie revenir au score sur pénalty consécutive à une faute de main de Steve Yago dans la surface de réparation. Le capitaine éthiopien Getane Guerede ne tremble pas et égalise un but partout. Dès lors, les Burkinabés vont à nouveau souffrir face à une équipe bien organisée de l'Éthiopie. Les remplaçants Dango Ouattara, Zakaria Sanogo et Ismaïla Ouedraogo appelés à la rescousse ne trouvent pas non plus la solution. Les Étalons tremblent. Tout le Burkina avec. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Amal Eraral qui mettra fin également au supplice des supporters. Le Burkina termine deuxième de son groupe et devra se déplacer à Lembe pour y affronter le deuxième du groupe C composé du Maroc, du Ghana, du Gabon et des Comores. Pour cette prochaine sortie du 23 janvier prochain, Kamo Malo devra corriger impérativement les imperfections afin d'élever le niveau de jeu de l'équipe. L'essentiel est assuré, mais le plus difficile commence. Ibrahim Bayeli, depuis Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, pour Radio Omega.
Merci Ibrahim Bayeli. Et puis, ce fut un match très difficile face à une équipe éthiopienne joueuse. Et en voulant se faire plaisir, les Antilopes ont posé d'énormes problèmes aux Étalons. C'est une analyse de l'entraîneur burkinabé Kamo Malo.
Content parce que l'objectif qu'il a atteint, c'est de se qualifier. Maintenant, quant au contenu, ça c'est une autre affaire. Alors, c'est vrai que ce soir, nous avons eu un match quand même difficile parce que face à une équipe d'Éthiopie très joueuse, ça on le savait aussi également, et surtout qui jouait ce soir n'avait rien à perdre, c'était juste se faire plaisir, ne pas repartir les mains vides. Ce soir, vraiment, nous avons créé pas mal de difficultés, surtout dans la tenue du ballon. Et ça, ça a été vraiment un gros problème. Sinon, pour le reste, on s'attendait quand même à un match difficile, à une Coupe d'Afrique. On ne vient pas et puis marcher sur les autres. Alors c'est une compétition, on va avancer petit à petit, pas à pas. Je pense que nous avons franchi un palier et c'est ce qu'il faut retenir. Alors et nous allons aller travailler parce que nous savons que notre équipe n'est pas réellement au top, ça nous le savons dès le départ. Mais nous allons travailler au fur et à mesure à corriger en tout cas nos insuffisances. Et c'est ainsi que cette équipe va grandir.
Kamou Malou, l'entraîneur des Italons, les Italons justement, ont bénéficié une fois de plus du soutien du 12e homme parti très tôt hier de Yaoundé. Les supporters ont joué leur partition dans les tribunes. Si c'était un appel à rester serein, d'autres en revanche se montrent très inquiets pour la suite de la compétition. Écoutons quelques réactions au micro d'Abdoulkader Konaté recueilli à Bafoussam.
C'est comme un moteur à diesel. On a démarré mais lentement, mais s'il plaît à dire, ça sera sûrement. En tout cas, moi, je ne suis pas déçu. Bon, en tout cas, la prestation, c'est en dessous de nos attentes. Mais je suis sûr que le prochain match, ça va venir. Comme là-bas, c'est un coup où tout le monde sait que c'est pas simple, ça va aller.
Je ne suis pas déçu parce que ce genre de compétition, pour se les dire, hein, c'est comme ça. Par exemple, ce soir, c'était un match coupé, comme on aime le dire. C'est un match coupé, hein. C'est-à-dire que la moindre erreur, vous êtes battu ou vous êtes éliminé. Il fallait gérer. Je me dis que les enfants avaient vraiment la tête à ça, se qualifier. Et Dieu merci, nous sommes qualifiés.
Vu que nous sommes restés sur notre soif, en réalité, l'équipe n'a pas montré un visage rayonnant. On connaît notre équipe, nous savons que nous sommes capables de plus que ce qui a été donné de constater ce soir. Parce qu'en réalité, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer.
On n'a pas été fiers de ce jeu des Italons. Toute l'animation, tous les supporters ne sont pas contents. On n'est pas contents du jeu qu'ils mènent. S'ils continuent comme ça sur ce lancer, c'est sûr qu'on n'ira pas loin. On est qualifié, mais franchement, on n'est pas content.
Bon, on ne va pas trop s'alarmer. On va inviter en tout cas le staff technique, les joueurs, à profiter de la trêve là, pour se remettre et rebondir au niveau des huitièmes de finale. Bon, je suis confiant que si l'équipe se retrouve, nous pouvons en tout cas passer le cap des huitièmes de finale.
Voilà quelques supporters donc au micro de Abdoulkader Konaté. Un autre de nos envoyés spéciaux à la CAN 2021 au Cameroun. Pour le programme du jour, on aura Sénégal, Malawi et Zimbabwe-Guinée à 16h. Ghana, Comores et Gabon, Maroc, c'est à 19h.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Voici revenu le temps des rhumes et des éternuements, rhumes, angines, otites, grippes, sinusites, les maladies ORL. Constitue l'un des principaux motifs de consultation ces dernières semaines. On en parle donc avec notre invité du jour. Il s'agit du docteur Omar Zamtako, chirurgien tête et cou, chef du service ORL à l'hôpital protestant Chifram. Il répond aux questions de Marina Traoré.
De plus en plus de personnes souffrent ces dernières semaines de rhume, d'angine, de toux. Qu'est-ce qui explique que ces maladies apparaissent surtout en ces temps?
Comme vous le savez, c'est la période de l'harmattan où le vent est sec, froid, donc chargé de beaucoup de particules. Donc ça fait que les voies respiratoires supérieures souffrent énormément. Donc c'est dans ce cadre-là que ces maladies-là sont très récurrentes à ces périodes allant de fin novembre jusqu'en fin janvier. Voilà. Entre autres, ce que vous avez déjà cité, on a les rhinites, les rhinopharyngites chez les enfants. Nous avons également les sinusites, les bronchopulmopathies, et ceux qui souffrent d'asthme peuvent avoir des crises d'asthme. On peut également avoir des pathologies oculaires, à savoir les conjonctivites. Donc c'est des pathologies de l'ensemble des voies aérodigestives supérieures. Elles sont nombreuses et ces maladies, leur point de départ c'est le nez.
Est-ce que ce sont des troubles qui sont causés par des virus ou est-ce que ce sont juste des allergies?
Ça peut être les deux, voilà. Mais en temps d'harmattan, c'est généralement les virus qui sont transportés par ce temps de vent. Et comme les voies respiratoires supérieures, à savoir le nez, est fragilisé, voilà, c'est germes parce que le nez joue le rôle de filtre, voilà, de l'air qu'on respire. Donc, comme le nez est fragilisé, et ces germes-là arrivent à franchir la barrière de sécurité qui est le nez pour atteindre les voies respiratoires inférieures. Ça, c'est le stade final, en fait, de l'infection. Sinon, c'est d'abord le nez, après la gorge. Après la gorge, ça descend au niveau du larynx, et du larynx, ça descend au niveau de la trachée. La trachée dans les bronches au niveau pulmonaire. Donc, l'étape première, c'est au niveau du nez. Donc, c'est dû à des virus, ça peut être dû à une allergie pour une personne qui est hypersensibilisée, une personne qui est atopique, quelqu'un qui est allergique. Ça peut être dû parce que la poussière également aussi contient des acariens qui sont à l'origine de la survenue des crises d'asthme et la survenue d'allergies.
Et ça dit que pour ces personnes, si par exemple elles sont allergiques, est-ce qu'il y a des traitements pour leur permettre vraiment de se sentir mieux ou est-ce qu'elles vont tousser comme ça durant toute la période?
Non, c'est bien sûr qu'on peut prévenir parce que la toux, elle est invalidante. Aujourd'hui, une personne qui tousse éveille les curiosités. Du coup, c'est un symptôme qui est gênant. Quand ce symptôme est rangé dans une pathologie, en fonction de la pathologie, il y a des traitements indiqués. Si c'est dû à l'asthme, la prise en charge se fait au niveau du pulmologue. Si c'est un problème ORL, on voit l'ORL qui va faire le diagnostic, trouver la pathologie qui est la cause et puis voilà, et mettre le traitement qu'il faut.
Est-ce qu'on peut situer la perte de la voix aussi parmi les symptômes?
Oui, comme je le disais tout de suite, le point de départ, c'est le nez. Quand l'infection arrive au niveau du larynx, qui est l'organe qui nous permet de parler, et notamment au niveau des cordes vocales, on peut avoir ce qu'on appelle la dysphonie. C'est un trouble de la phonation et qui peut aller d'une simple gêne, hein, et un enrouement de la voix, à une perte totale de la voix.
Il y a aussi ceux qui perdent l'odorat.
Oui, avec l'avènement de la COVID-19, nous, surtout ORL, on rencontre plein de malades qui viennent pour un trouble de l'olfaction. Ça part de l'hyposmie, une baisse de l'odorat, à l'anosmie totale. Le malade ne sent plus rien. Et il y a également aussi les parosmies. Les parosmies, c'est des troubles. Au lieu de sentir du poulet, tu sens du caca. En fait, la mémoire olfactive n'est plus efficace et ne peut plus reconnaître les odeurs habituelles que le malade reconnaît. Si, par exemple, il est face à un parfum, il voit que son parfum ne sent plus bon comme avant. Bon, ça, c'est des distorsions de l'olfaction. Et ça, c'est dû à une détérioration de l'épithélium au niveau olfactif. Parce qu'au niveau du nez, au niveau du toit du nez, il y a des filets olfactifs. C'est le nez qui donne des filets qui nous permettent, quand on inspire, que ces filets-là captent les odeurs, les transmettent au niveau du cerveau, qui décortiquent pour savoir c'est quelle odeur. Donc, quand on a une inflammation du nez, le fait que ça gonfle, ça cisaille ces filets olfactifs-là. Donc, comme ça les cisaille, il ne peut plus transmettre les odeurs qu'il capte.
Et là, il n'y a pas de solution?
Si, il y a des solutions, parce qu'au départ, on était au stade de tâtonnement, on ne savait pas quoi faire. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la rééducation olfactive qu'on a. Ça veut dire qu'on met un procédé en place pour permettre aux malades de humer des senteurs qui sont très, 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 très fortes pour essayer de rééduquer la fonction olfactive. Et ça se passe très bien.
Le fait de toucher un mouchoir ou d'être en présence d'une personne qui souffre de rhume, de toux, qui éternue, ça peut suffire pour contaminer une personne?
Oui, exactement. Si j'éternue tout de suite, si j'ai la grippe, vous avez de fortes chances dans les 48 heures à venir de développer une grippe.
Ce qu'on remarque aussi, c'est que le caractère bénin de ces troubles-là font que souvent on s'adonne à l'automédication. À quel moment est-ce qu'il faut consulter? Qu'est-ce que vous avez à conseiller à tous nos auditeurs?
Moi, en tant que praticien médecin ORL, je défends à mes patients d'adopter l'automédication. L'automédication, c'est une perte d'argent, une perte de temps, et ça permet à la maladie de courir, parce que la maladie n'attend pas. Donc, ce que moi je conseille aux malades, quand il y a des pathologies, quand il y a la grippe, c'est prendre peut-être du paracétamol s'il y a la fièvre, la douleur, et de courir vite pour aller voir le premier médecin, qui va poser le diagnostic et mettre le traitement adéquat. Pour les enfants, je conseille aux mamans d'avoir du sérum physiologique à la maison pour que, quand les symptômes débutent, qu'on utilise le sérum physiologique pour laver le nez des enfants.
Voilà, c'est avec notre invité du jour, Dr Omar Zamtako, que nous refermons cette édition. Au micro, Denis Zungrana, à la réalisation, Fidèle Compaoré. Merci à vous qui êtes restés à notre écoute. Bon appétit si vous êtes à table et prudence si vous êtes en véhicule.
Radio Omega, l'info en direct.